RCF.
Avant-hier soir, Arte rediffusait le film Les Suffragettes, histoire de la lutte des femmes en Angleterre pour obtenir le droit de vote qu'elles obtinrent en 1918, alors que les femmes en France se fut en 1944. Haute lutte. Les générations de jeunes, filles ou garçons, aujourd'hui ont-elles conscience des luttes menées par les femmes pour obtenir l'égalité des droits? Une des questions que nous vous poserons, Cécile Grosjean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, une émission qu'on enregistre à 8h30 ce 8 mars, parce que c'est une grosse journée pour vous.
Oui, bien remplie d'actions, de rencontres. Ça va être une journée riche.
Ouais. Une journée incontournable, parce que cette date du 8 mars.
Oui, elle reste encore importante, effectivement, pour mobiliser les femmes, les hommes, autour de cette cause de l'égalité entre les femmes et les hommes. On a beaucoup évolué en droit, mais il reste des inégalités pour permettre aux femmes de pleinement bénéficier de ces droits. Donc ça reste important, cette journée-là.
Oui. Et pas seulement dans l'image, mais dans l'action aussi, parce qu'on pourrait se dire, oui, bah le 8 mars maintenant, c'est la journée de la femme, c'est tous les jours les journées de la femme.
Je me bats contre cette appellation journée de la femme, c'est vraiment la journée internationale des droits des femmes, effectivement. C'est une journée qui permet de rassembler, de fédérer, de faire des actions, effectivement, soit à destination de public scolaire ou non, soit à destination de grand public, pour rappeler, vous l'avez dit, cette histoire hein, de lutte, de mobilisation des femmes pour la conquête de leurs droits, et puis montrer évidemment tout ce qui a progressé, mais ce qui reste encore d'inégalités et de progrès à accomplir.
Oui, on va le voir dans un instant. Les jeunes ont conscience de cette histoire longue, difficile.
Je pense qu'ils l'étudient de plus en plus. Ça, c'est quand même une histoire qui est restée dans l'ombre longtemps, mais je crois que maintenant, il y a de plus en plus d'enseignants aussi qui s'en emparent, qui l'expliquent, qui en débattent avec les élèves. Mais je pense que ça reste important de refaire de la pédagogie parce qu'on voit aussi sur certains droits un risque de recul. On l'a vu sur l'IVG dans certains pays. Aujourd'hui, en France, on constitue cette liberté pour les femmes et donc c'est important, ça permet aussi de réexpliquer comment on en est arrivé là en France que les femmes ont dû effectivement lutter pour acquérir ce droit à disposer de leur corps.
Cécile Grosjean, comment on arrive à être déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité?
Oh bah c'est une envie, ce sont des convictions, c'est sûr, mais c'est aussi se mettre au service de l'État pour cet enjeu d'égalité femmes-hommes, l'envie de faire progresser la société, de participer à son échelle à la construction d'une société mixte, égalitaire dans la mixité. Petit à petit, hein, c'est un parcours qui se construit. Moi, j'ai travaillé au ministère des Affaires sociales à Paris une quinzaine d'années. C'est toujours sur les politiques sociales. Moi, c'est vraiment le champ qui me passionne. Déjà sur l'aide à la parentalité, les droits des familles, les familles monoparentales, le besoin de répit des familles monoparentales et puis les droits des femmes. Petit à petit, j'y suis venue et j'ai souhaité effectivement me concentrer un peu sur cette politique-là et à l'échelon local pour la mise en œuvre.
Ouais. Et quand on dit que la société, enfin quand vous avez dit que la société s'en empare, il y a même des formations aujourd'hui sur ce champ-là.
Du droit des femmes et de la... Oui, bien sûr, de plus en plus hein, d'organismes de formation auprès des entreprises, auprès des jeunes. Moi-même, j'en finance, alors plus dans le champ de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la lutte contre les violences conjugales. Mais pour sortir aussi de cette idée que l'égalité serait une opinion, non, il y a des inégalités qu'on peut mesurer, que l'on doit d'ailleurs mesurer, pour ensuite prendre les mesures de correction par les politiques publiques de l'État, mais aussi des collectivités locales. Donc c'est vraiment aussi un objet de science et de politique publique. C'est tout l'enjeu aussi des formations que l'on peut dispenser.
En ce 8 mars 2024, une émission avec Cécile Grosjean, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. On pourrait penser que c'est une question qui concerne, puisque c'est une journée internationale, plutôt d'autres pays que le nôtre. Comment sommes-nous en France encore concernés par ces questions des droits de femmes et de l'égalité ?
Alors, on a tout un appareil statistique en France, à travers l'INSEE, mais également à travers d'autres institutions qui permettent de mesurer justement les écarts entre les femmes et les hommes, de repérer où ils sont et de repérer aussi des comportements qui perpétuent, en tout cas qui laissent s'installer cette mécanique de construction des inégalités. Et l'INSEE, par exemple, hier a rendu public des statistiques pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment des chiffres départementaux, c'était là un peu une première fois. Donc on peut constater encore dans l'Ain aussi les mesurer et constater, identifier ces inégalités à l'échelle du département de l'Ain, qui existe dans plus, tous les champs, hein, que ce soit de l'emploi, de la parité, au niveau scolaire, voilà, ces différences entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes sont bien là, existantes.
Alors, sur quel point sommes-nous bons élèves dans l'Ain ou moins bons élèves, pour ne pas dire mauvais élèves?
Ben, en fait, on voit se refléter ce qui existe à l'échelle nationale. Par exemple, si on prend la situation des familles monoparentales, on a davantage de femmes à la tête d'une famille monoparentale en situation de pauvreté. On a davantage de filles qui sortent du système scolaire, davantage diplômées, et pour autant, elles se retrouvent moins nombreuses parmi les emplois de cadre. Elles se retrouvent avec des salaires moins élevés que leurs équivalents masculins sur des postes équivalents. On a moins de femmes élues mères que d'hommes. Enfin voilà, dans tous les champs finalement d'études, ces inégalités se retrouvent.
L'Ain ne se distingue pas.
L'Ain ne se distingue pas. Alors parfois, par rapport à la moyenne régionale, on va être un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, mais cette dynamique se retrouve. Mmh. On constate néanmoins que certaines inégalités se réduisent, les écarts se réduisent, par exemple pour les inégalités salariales, par exemple en termes de parité. Mais ça reste une progression extrêmement lente.
On peut peut-être prendre quelques chiffres. Donc, vous avez commencé par les situations de pauvreté, où ce sont d'abord des femmes seules qui sont en situation monoparentale.
Oui, actuellement, c'est à peu près 25% des familles qui sont monoparentales.
Alors, est-ce qu'on l'explique? Parce que c'est souvent quand même la femme qui a
La garde des enfants, oui, ça reste encore un schéma le plus répandu. Mais néanmoins, elles sont 26% de ces familles monoparentales dont l'adulte référent est une femme à vivre en situation de pauvreté, alors que ce taux-là est moindre quand c'est le père, quand c'est un homme qui est chef de famille monoparentale.
Parce qu'elles auront, par exemple, des emplois à temps partiel ou très partiel.
Voilà, en fait, on se reflète. Alors, effectivement, cette dynamique de l'emploi qui se retrouve, elles sont soit moins souvent en emploi, soit quand elles ont un emploi, plus souvent à temps partiel. Elles sont aussi davantage en responsabilité d'enfants en situation de handicap, avec un temps auprès de l'enfant nécessaire et important. Et donc un besoin de soutien vraiment important de la part des pouvoirs publics.
Oui. Donc voilà pour les situations de pauvreté, de familles monoparentales. D'autres chiffres qu'on pourrait signaler. Donc vous aviez parlé de la parité en politique, enfin au niveau communal en tout cas.
Oui, une parité qui progresse au sein des conseils municipaux. On a presque 45% de femmes dans les conseils municipaux de l'Ain, mais à la tête de ces conseils municipaux, seulement 23% de femmes maires dans le département. Et on le voit également dans le champ professionnel, moins de femmes cadres, ça je l'avais déjà dit, et une spécialisation un peu, une orientation très genrée en fait, dès le collège, dès le lycée, et donc une spécialisation des emplois, des femmes plus souvent dans les emplois, dans l'un, agent d'entretien, aide-soignant, enseignant, et les hommes vont plutôt se concentrer parmi les conducteurs de véhicules, engins de BTP, ouvriers qualifiés, techniciens de maintenance. Et en fait, cette répartition par sexe des emplois est associée également à une moindre valorisation des emplois féminins.
Mmh. Et ça, c'est l'histoire qui le montre, ça, que par exemple, les femmes dans le BTP, pendant longtemps, elles ont été absentes.
Oui, et puis... Il y a encore quand même cette image de pénibilité associée au métier du BTP, cette image que ce sont des métiers où le corps est fort sollicité, ce qui peut être vrai, mais pas pour l'ensemble des métiers du BTP. Hier, la préfète de l'Ain, Chantal Mochet, était au centre de formation du BTP à la rencontre de jeunes filles inscrites en alternance dans ce centre de formation. Et sur certains métiers, elles trouvent pleinement leur place.
Par exemple,
peinture, menuiserie, on a vu également d'autres plateaux techniques et des femmes à la fois jeunes et en reconversion professionnelle. Donc la tranche d'âge allait de 17 ans à 53 ans. Voilà, on a vu une femme de 53 ans hier en menuiserie. Et elles témoignent toutes qu'elles ont trouvé leur place. Voilà, que c'est, certaines avaient pu être orientées au départ vers des métiers de la petite enfance, vers des métiers du soin ou des métiers administratifs et qui ne leur plaisaient pas du tout. Et elles ont eu la force, le courage, l'envie de s'écouter et de se réorienter vers ces métiers.
Parce qu'elles avaient envie.
Quoi. Voilà, et elles sont très bien accueillies, très bien au centre de formation, et puis dans leurs entreprises.
Ouais. Alors, Béatrice Picard de Gletagne nous disait à notre micro, là, cette semaine, donc elle est dirigeante de Didier Signalétique, voilà, en tant que femme, dans ce milieu plutôt d'hommes, des métiers du BTP, il avait fallu faire sa place, prouver que, mais une fois qu'on y était, on était très respectés.
Oui. Oui, oui, elles ont toutes témoigné de ça, hein. Que ce soit sur les chantiers ou en apprentissage au centre de formation. C'est ça, elles sont tout à fait à leur place et bien entourées par leurs collègues masculins. Ouais.
Donc, vous avez dit, Cécile Grosjean, que tout part finalement de l'orientation professionnelle. Il y a des efforts faits, enfin des communications faites. Par exemple, là, vous disiez donc des collégiens ont été accueillis hier dans ce centre de formation. Donc ça se développe aussi, ça.
Oui, c'est une dynamique qui se développe. De plus en plus de collèges travaillent cette question-là de l'orientation non genrée. Moi, j'y contribue en travaillant, par exemple, là, avec le collège de Pondin sur une action autour de l'orientation. Effectivement, on va essayer de faire témoigner des professionnels pour élargir le champ des possibles des quatrièmes et troisièmes, en proposant aussi de déconstruire certains stéréotypes liés à ce qui serait un métier d'homme ou un métier de femme. Non, et donc en faisant témoigner peut-être des exemples contraires, voilà, pour montrer que c'est possible. Et de façon générale, l'éducation nationale a développé un label égalité filles-garçons auquel les établissements scolaires peuvent candidater. S'ils intègrent dans le fonctionnement quotidien de leur établissement une démarche de promotion de l'égalité filles-garçons sur un peu tous les axes de travail d'un collège. Et donc, c'est aussi un label qui reconnaît, qui valorise leur travail et qui les incite aussi à travailler ces questions-là.
Mmh. On écoutait aussi cette semaine, dans le cadre de ces émissions spéciales autour du 8 mars, l'expérience du collège de Pondin. L'année dernière, c'était le collège d'Ambérieu-en-Bugey. Oui. Il y en a plusieurs des collèges qui rentrent dans cette démarche de labellisation.
Il y en a de plus en plus. Alors moi, à ma connaissance, je n'étais sollicitée que par des collèges jusque-là. Et il y a le collège d'Artemare aussi qui s'est engagé dans cette démarche, qui a déjà reçu un premier niveau de labellisation, parce qu'il y a plusieurs niveaux, et qui candidate pour le niveau encore supérieur. Donc oui, ça commence à SM, mais c'est assez récent, et ça SM. On voit que ça fait sens pour les équipes de direction de ces collèges, les équipes éducatives et les élèves, parce que du coup, ils sont très actifs aussi dans cette démarche.
Oui, alors... cette semaine, on a aussi diffusé des petites chroniques réalisées par des élèves de 6e du collège Louise de Savoie de Pondin. Et effectivement, il s'étonne de voir que, bah, par exemple, une femme est moins bien payée qu'un homme pour le même poste.
Oui, je pense qu'il y a une sensibilité accrue de cette nouvelle génération, de cette jeune génération vis-à-vis des inégalités. Ils sont à l'âge aussi de l'adolescence où... le caractère injuste des choses les touche énormément. Donc, je pense que c'est vraiment un bon âge. Évidemment, plus le temps on le fait, mieux c'est. Mais c'est quand même un âge où ils sont très perméables à ces sujets-là et où on peut vraiment, dans l'échange, dans le respect des opinions, mais les amener à comprendre certaines mécaniques, à les amener à questionner certains états de fait voilà, qui plus tard aussi dans leur construction les amèneront à réfléchir par eux-mêmes après.
Ouais. Est-ce que l'INSEE dans ses statistiques montre aussi que cette question de l'égalité des droits est plus prégnante dans tel milieu sociologique ou tel milieu culturel que d'autres, que tel autre?
C'est un peu, non, je pense que c'est un peu difficile à dire, mais si, enfin, on peut l'appréhender à travers les inégalités salariales. C'est un peu plus ça qui est, comment dire, qui est corrélé à la catégorie socio-professionnelle. Et ce que l'INSEE tendait à montrer là avec les derniers chiffres, c'est que les inégalités sont un peu plus importantes femmes-hommes au niveau cadre qu'au niveau d'une catégorie socio-professionnelle inférieure. Donc finalement, plus une femme monte dans l'échelle socio-professionnelle, plus elle a de chances d'avoir d'être pénalisée en termes
de risque.
Salarial.
Ouais. De même que les violences faites aux femmes touchent tous les milieux.
Tout à fait.
Cette question-là interroge ou pas tous les milieux.
Oui, oui, et puis ce qui pénalise fortement l'égalité professionnelle, c'est aussi le fait que, et on le voit dans les statistiques, hein, quand une femme a des enfants, et plus elle a d'enfants à charge, son temps de travail diminue, statistiquement hein, parlant. Hein. En tout cas, il y a une corrélation forte entre le nombre d'enfants à charge et la diminution du temps de travail des femmes, qui ne se retrouvent pas du tout du côté des hommes. Et donc, ces inégalités, elles viennent également donc de ce rôle encore prégnant des femmes dans la famille et de l'inégale répartition des tâches familiales, parentales, dans les couples, quand il y a l'arrivée d'un, deux, trois enfants.
En ce 8 mars 2024, nous accueillons pour cette émission Féminin Pluriel la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, Cécile Grosjean, qui soutient financièrement cette série d'émissions sur RCF. On va pas donner tout le programme du 8 mars, et puis le 8 mars, en fait, il commence début mars et il s'achève presque au mois d'avril, hein, puisqu'on a parlé en début de semaine d'une action menée dans le milieu agricole pour le 6 avril. Comment choisissez-vous les actions que votre délégation va soutenir financièrement pour ce 8 mars ou d'autres moments dans l'année, hein, puisqu'il y a aussi notamment le 24 ou 25 novembre. 25 novembre pour la
journée. Oui, on agit, je dis on parce qu'on est un réseau de délégués aux droits des femmes, un ou une par département.
D'ailleurs, est-ce qu'il y a des hommes qui sont délégués aux droits des femmes?
Oui, tout à fait. Il y a des hommes qui s'empêchent de candidater parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit, ils ne seront pas pris. Voilà, c'est l'effet aussi des stéréotypes et des inégalités. Mais on agit dans le cadre d'un plan interministériel actuellement qui cadre notre action sur la période 2023-2027 qui comprend quatre axes: la lutte contre les violences faites aux femmes, la santé des femmes, l'égalité économique et puis la culture de l'égalité. Donc j'essaye effectivement de, avec les associations, avec les élus locaux, avec des entreprises ou des organisations professionnelles, de construire des projets autour de ces quatre axes, en tout cas qui nous permettent de remplir ces objectifs-là. et en, effectivement en privilégiant autour de cette ce mois de mars les axes qui relèvent de la santé, de l'égalité économique, de la culture de l'égalité, parce que on a ce mois de novembre avec cette date de journée internationale autour de la lutte contre les violences faites aux femmes, qui nous permettent vraiment de mettre la focale sur les violences faites aux femmes, et donc sur ce mois de mars privilégier aussi d'autres actions importantes.
Oui, et puis voilà, c'est aussi une communication très large dans tous les médias, donc ce serait dommage de ne pas profiter aussi de cet élan médiatique.
Oui, tout à fait. Ouais. On a effectivement une écoute un peu plus importante qu'on aimerait retrouver le reste du temps, mais en tout cas, voilà, c'est une opportunité importante pour faire passer plusieurs messages.
Alors, qu'est-ce que vous aimeriez signaler pour ce 8 mars ? Je crois qu'après cet enregistrement, vous filez pour la présentation du plan Angela. De quoi s'agit-il ?
La ville de Bourg-en-Bresse et son, notamment l'élu en charge des droits humains, Alexa Cortinovis, a décidé de prendre à bras-le-corps la lutte contre le harcèlement de rue et donc de lancer le plan Angela, qui consiste à créer un réseau de lieux tiers sûrs, solidaires. Donc, ce sont des commerçants, ce sont des institutions culturelles, des bars qui s'engagent en cas de harcèlement dans la rue, voilà, à accueillir une personne qui serait victime pour lui permettre déjà de se dégager, de se mettre un peu en sécurité, de contacter une personne de son choix, voire les forces de l'ordre si nécessaire, et de contribuer à construire une ville plus sûre pour les femmes qui, en majorité, ont un sentiment d'insécurité plus important que les hommes dans la ville. La présence des femmes dans l'espace public est encore moindre, et les hommes occupent l'espace public, et donc c'est contribuer à leur sécurité, mais finalement à la sécurité de tous, parce qu'il y a aussi des hommes qui subissent des discriminations et des pressions dans l'espace public.
Donc ce plan Angela sur Bourg-en-Bresse, il existe déjà dans d'autres communes dans l'Ain?
Il existe, pas dans d'autres communes dans l'Ain, mais dans d'autres départements.
Oui,
la
Lyon,
ville de Lyon l'a mis en place très récemment, plusieurs autres communes l'ont mis en place. C'était une initiative de la secrétaire d'État chargée de l'égalité en 2019 et qui a été dont les communes se sont emparées petit à petit. Ouais.
Vous serez aussi présente, je crois, sur l'animation autour de l'entrepreneuriat féminin.
Oui, c'est une action que j'ai portée avec la Fabrique des Possibles, un collectif d'acteurs qui accompagnent vers l'entrepreneuriat. Là, c'est un atelier autour de la confiance en soi, de la prise de parole des femmes dans toutes les dimensions de leur entreprise, et notamment de la négociation. Pour les outiller à se sentir légitime et à mieux négocier.
Oui, c'est ça, le sentiment de l'imposture est souvent noté aussi de la part des femmes qui sont chefs d'entreprise, par exemple.
Oui, sentiment d'imposture. Et puis, il y a des vrais freins dans la levée de fonds, par exemple.
Au niveau des banques.
Au niveau des banques. Les femmes entrepreneurs ont aussi des plus petits projets, mais lèvent moins de fonds que les hommes. Leurs projets sont jugés peut-être moins porteurs. En tout cas, il y a un vrai frein de ce côté-là. Donc, c'est leur permettre aussi de mieux négocier face à ces acteurs bancaires.
D'autres actions où vous serez ou pas, puisque la journée n'a que 24 heures.
Et alors, cet après-midi également, à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse, il y a une grande action de type un peu forum avec plusieurs acteurs. Une action qui a été montée par le Centre social de la Grande Ressouse et l'association Gemna Mix Attitude, qui réunit vraiment beaucoup d'acteurs, dont, par exemple Couple et Famille, le CIDFF, le volet emploi, le volet santé avec le centre de dépistage des cancers. Ça fait suite à un projet que j'ai cofinancé en 2023 pour la mobilisation de groupes de femmes dans les quartiers, mais pas que, autour de leurs besoins, de l'information sur leurs droits, et donc l'idée de réunir tous les partenaires qui pouvaient aussi contribuer à améliorer leur information sur tous les champs. Donc ça va être aussi une belle action. Il y aura des frises aussi sur justement pour comprendre cette évolution des droits des femmes, des ateliers, des prises de parole. Donc ça, c'est cet après-midi. Et puis moi, je prolonge lundi. Je serai à Artemare au collège. J'ai financé une compagnie comme un arbre création qui va travailler avec les élèves autour de la figure de Wangari Maathai, une femme politique kényane, prix Nobel de la paix, qui a beaucoup œuvré à la préservation de l'environnement, à la reforestation et à la place des femmes. Donc c'est vraiment mettre en avant une figure féminine. On parle souvent de rôle modèle, hein, que les femmes puissent aussi se projeter sur des exemples. Le leadership féminin dans cet enjeu de préservation de l'environnement qui va être donc proposé, discuté avec les collégiens, les filles et les garçons. Il y a une classe aussi également allophone dans ce collège d'Artemare, donc c'est aussi leur permettre de prendre connaissance avec voilà, cette figure internationale qui va être riche d'enseignement pour nous tous. Et il y aura une restitution publique dans la salle de conférence d'Artemare de ce travail-là toute cette semaine. Donc j'ai hâte d'y être.
Oui. En tout cas, il y a des choses à Artemare, à Bourg-en-Bresse, mais aussi vraiment partout dans le département. Hein, quand on regarde le programme de ce qui se passe à l'occasion du 8 mars, c'est vraiment c'est... du Pays d'Aix jusqu'au Bugey, en passant par la Dombes et la Bresse.
Ouais, tout à fait. C'est l'envie qu'on avait avec l'UDAF, je travaillais avec l'UDAF, à établir ce programme départemental, de montrer justement la dynamique dans le département, pas uniquement à Bourg-en-Bresse, pour montrer à tous les acteurs qu'il y a cet élan, il y a cet élan collectif, il y a cette mobilisation collective, et donc on est nombreux et nombreux à se mobiliser et donc ça donne aussi du souffle pour continuer. Voilà, c'est vraiment cette ambition là.
Belle journée du 8 mars. Merci beaucoup,
merci
Cécile Grosjean. Donc je rappelle que vous êtes déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Merci.